Ces trois parties existent-elles ou non dans l'âme? Voilà, mon cher, une question assez fâcheuse. Pas si fâcheuse, à mon avis, Socrate. Le proverbe a raison. Le beau est difficile. Sans doute, mais sache, Glaucon, que dans mon opinion, une méthode semblable à celle que nous suivons ne peut nous mener véritablement à notre but. C'est une autre route, et plus longue, et plus compliquée, qui doit nous y conduire. Toutefois, cette méthode peut nous donner encore une solution qui convienne à notre discussion et à ce que nous avons dit jusqu'ici. Pourquoi ne pas nous en contenter? Pour le moment, cette solution me suffirait. Et moi aussi, je ne demande pas mieux que de m'y tenir. Poursuis donc dans tes recherches sans te lasser. N'est-ce pas une nécessité pour nous de convenir que le caractère et les mœurs d'un État sont dans chacun des individus qui le composent? Car évidemment, c'est de l'individu qu'ils ont passé dans l'État. En effet, il serait ridicule de prétendre que cette énergie passionnée qu'on attribue à certains peuples, comme les Thraces, les Scythes et en général les habitants du Nord, ou ce goût de l'instruction qu'on peut croire naturel aux habitants de ce pays, ou cette avidité de gain qui caractérise les Phéniciens et les Égyptiens, n'ont pas passé de l'individu dans l'État. Assurément. La chose est ainsi. Il n'est pas difficile de le reconnaître. Non. Ce qui est difficile, c'est de décider si, dans chacun de nos actes, nous agissons par trois principes différents ou par le même principe. C'est-à-dire, s'il est un principe par lequel on connaît, un autre par lequel on s'irrite, un autre par lequel on se porte vers le plaisir attaché à la nourriture, à la conservation de l'espèce et vers les autres plaisirs de cette nature, ou si l'âme est tout entière dans chacune de ses démarches. Voilà ce qu'il sera difficile de déterminer, comme il conviendrait de le faire. Il me le semble, Socrate. Essayons de déterminer de cette manière s'il y a dans l'âme trois principes distincts ou un seul et même principe. De quelle manière, Socrate? Évidemment, la même chose, considérée sous le même rapport et relativement au même objet, ne pourra pas produire et éprouver des effets contraires. De sorte que si nous découvrons ici un phénomène semblable, nous reconnaîtrons qu'il n'y a pas unité, mais diversité de principes. Soit, Socrate. Fais attention alors à ce que je dis. Parle. La même chose, considérée sous le même rapport, peut-elle être au même instant en repos et en mouvement? Nullement, Socrate. Assurons-nous de cette vérité, de peur que dans la suite, il ne nous survienne des doutes. Si quelqu'un prétendait qu'un homme, qui se tient debout et remue seulement les mains et la tête, est tout à la fois en repos et en mouvement, nous objecterions, je pense, que pour parler juste, il faut dire qu'une partie de son corps se meut, tandis que l'autre est en repos. N'est-ce pas? Oui, Socrate. Si, poussant plus loin la plaisanterie, on soutenait que la toupie, lorsque invariablement fixée au même endroit, elle tourne sur sa pointe. Ou quelqu'un de ces corps qui exécute un mouvement circulaire sans changer de place est à la fois tout entier en repos et tout entier en mouvement. Nous n'admettrions point que ces corps sont à la fois en repos et en mouvement sous le même rapport. Nous dirions qu'il faut distinguer en eux deux choses, l'axe et la circonférence. Que selon leur axe, ces corps sont en repos, puisque l'axe n'incline d'aucun côté, mais que, selon leur circonférence, ils se meuvent d'un mouvement circulaire, et que, si en même temps que le corps tourne, l'axe vient à pencher à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, alors le corps cesse absolument d'être en repos. Et cette réponse serait excellente. Ces sortes de difficultés ne nous effraieront pas, et elles ne nous persuaderont plus que la même chose, considérée sous le même rapport et relativement au même objet, éprouve ou produise des effets contraires. Du moins ne sera-ce pas moi. Pour ne pas être obligé de nous arrêter longtemps à parcourir toutes les objections semblables et à les réfuter, supposons notre principe vrai et allons en avant, en convenant toutefois que si dans la suite il est démontré faux, toutes les conclusions que nous en avons tirées seront nulles. C'est ainsi qu'il faut procéder, Socrate. Dis-moi maintenant, faire un signe de consentement et faire un signe de refus, s'attacher à une chose et la rejeter, l'attirer à soi et la repousser, sont-ce des choses opposées, actions ou passions, peu importe. Ce sont des choses opposées, oui, Socrate. La faim, la soif, et en général les appétits naturels, vouloir, préférer, toutes ces choses, ne sont-elles pas de la même espèce que celles dont nous venons de parler? Par exemple, ne diras-tu pas toujours d'un homme qui désire que son âme s'attache à ce qu'elle désire, ou qu'elle attire à soi la chose qu'elle voudrait avoir, ou qu'en tant qu'elle souhaite qu'une chose lui soit donnée, elle fait signe qu'elle la veut, comme si on l'interrogeait là-dessus, en se portant elle-même, en quelque manière, au devant de l'accomplissement de son désir. Oui. Ne pas consentir, ne pas vouloir, ne pas désirer. N'est-ce pas la même chose que repousser et éloigner de soi? Et n'y a-t-il pas opposition entre ces opérations et les précédentes? Sans contredit, Socrate. Cela posé, n'avons-nous pas des désirs naturels? Et les plus apparents, ne sont-ils pas ceux que nous appelons la faim et la soif? Oui, Socrate. L'une n'a-t-elle pas pour objet le boire, l'autre le manger? Sans doute. La soif, en tant que soif, est-elle simplement dans l'âme le désir de boire et rien de plus? En d'autres termes, la soif en soi a-t-elle pour objet une boisson chaude ou froide, en grande ou en petite quantité, enfin telle ou telle boisson? Ou plutôt, n'est-il pas vrai que s'il se joint à la soif de la chaleur ou du froid, cela ajoute au désir de boire, celui de boire froid ou chaud? Que si la soif est grande, on veut boire beaucoup. Si elle est petite, on veut boire peu. Tandis que la soif prise en soi est simplement le désir de la chose qu'il est dans sa nature de désirer, c'est-à-dire le désir de boire, comme la faim est simplement le désir de manger. Oui, chaque désir, se porte naturellement vers son objet pris en lui-même. Ce qui vient s'y joindre fait qu'il se porte vers telle ou telle modification de son objet. Évitons d'être surpris et troublés par l'objection suivante. Personne ne désire simplement la boisson, mais une bonne boisson, ni le manger, mais un bon manger. Tous en effet désirent les bonnes choses. Si donc la soif est un désir, c'est le désir de quelque chose de bon, quel que soit son objet, soit la boisson, soit autre chose. Il en est de même des autres désirs. Cette objection, Socrate, si elle nous était faite, aurait peut-être quelque force. Observe toutefois que les choses qui, de leur nature, sont relatives, se rapportent par tel ou tel caractère particulier à tel ou tel objet particulier dont elles dépendent, et par leur caractère propre ne se rapportent qu'à elles-mêmes. Je n'entends pas. Quoi? Tu n'entends pas que ce qui est plus grand n'est-elle qu'à cause du rapport qu'il a à une autre chose? J'entends cela parfaitement, oui. À une chose plus petite? Oui, Socrate. Et que s'il est beaucoup plus grand, c'est par rapport à une chose beaucoup plus petite. N'est-il pas vrai? Oui. Et que s'il a été, ou s'il doit être un jour plus grand, c'est par rapport à une chose qui a été ou qui sera plus petite. Certainement, oui. Le plus a-t-il rapport au moins? Le double à la moitié? Le plus pesant au plus léger? Le plus vite au plus lent? Le chaud au froid? Et en est-il de même de toutes les choses semblables? Oui, Socrate. Et les sciences, n'en est-il pas de même? La science en soi est la science de ce qu'on apprend en général ou de tout ce qu'on doit apprendre. Une science particulière a pour objet telle ou telle connaissance particulière. Par exemple, lorsqu'il y eut une science pour construire les maisons, ne se distingua-t-elle pas des autres au point qu'on lui donna le nom d'architecture? Oui, eh bien, n'est-ce point parce qu'elle était telle qu'elle ne ressemblait à aucune autre science? Oui, Socrate. Et si elle était telle, n'est-ce point qu'elle avait tel objet particulier? N'en faut-il pas dire autant des autres arts et des autres sciences? Il en faut dire autant, oui. Si tu m'as compris maintenant, reconnais que je voulais dire que les choses qui sont relatives, prises en soi, ne se rapportent qu'à elles-mêmes, et considérées dans tel ou tel caractère particulier, se rapportent à tel ou tel objet particulier. Au reste, je ne veux pas dire par là qu'une chose soit telle que son objet, que par exemple, la science des choses qui servent ou nuisent à la santé soit saine ou malsaine, ni que la science du bien ou du mal soit bonne ou mauvaise. Je prétends seulement que, puisque la science du médecin n'a pas le même objet que la science en général, mais un objet en particulier, c'est-à-dire ce qui est utile ou nuisible à la santé, cette science est aussi particulière. Ce qui fait qu'on ne lui donne pas simplement le nom de science, mais celui de médecine, en la caractérisant par son objet. Je comprends ta pensée, et je la crois vraie. Ne mets-tu pas la soif, par sa nature, au nombre des choses relatives? La soif se rapporte-t-elle à quelque chose. Oui, à la boisson. Ainsi, telle soif a rapport à telle boisson, au lieu que la soif en soi n'est pas la soif d'une boisson en grande ou en petite quantité, bonne ou mauvaise, enfin de telle ou telle boisson, mais de la boisson, simplement. Nul doute, Socrate. Par conséquent, l'âme d'un homme qui a simplement soif ne veut autre chose que boire. C'est ce qu'elle désire et l'objet vers lequel elle se porte. Évidemment, Socrate. Si donc, lorsque l'âme a soif, quelque chose l'arrête dans l'impétuosité de son désir, ce sera un principe différent de celui qui excite en elle la soif et l'entraîne comme une brute vers le boire. Car, disons-nous, le même principe ne peut produire à la fois et par lui-même deux effets opposés sur le même objet. Oui, cela ne peut être. De même, à mon avis, il ne faudrait pas dire d'un archer qu'avec ses deux mains, il tire l'arc à soi et le repousse en même temps, mais bien qu'il tire l'arc à soi d'une main et le repousse de l'autre. Très bien. Dirons-nous qu'il se trouve quelquefois des gens qui ont soif et ne veulent pas boire. Bon, on en trouve souvent, et en grand nombre. Que penser alors de ces gens, sinon qu'il y a dans leur âme un principe qui leur ordonne de boire et un autre qui le leur défend et qui l'emporte sur le premier? Pour moi, Socrate, je le pense. Ce principe qui leur défend de boire ne vient-il pas de la raison? Celui qui les y porte et les y entraîne ne vient-il pas à la suite de la souffrance et de la maladie? Oui, Socrate. Nous aurions donc raison de penser que ce sont deux principes distincts l'un de l'autre, et d'appeler raisonnable cette partie de l'âme par laquelle elle raisonne. Et déraisonnable, siège du désir, compagne des excès et des voluptés, cette autre partie de l'âme qui aime, qui a faim et soif, qui est la proie de tous les désirs. Oui, Socrate, et cette opinion est très vraisemblable.